La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Juillet 1919, à Chicago, ce sont les premières émeutes raciales de l'histoire des États-Unis, apparues dans la modernité triomphante de la ville américaine par excellence. Suivies par des dizaines d'autres, c'est le Red Summer, ce qui signifie l'été rouge. Pendant plusieurs semaines, le sang a coulé. Couleur rouge comme le sang des Noirs, couleur rouge comme le sang des Blancs, car pour la première fois, les Noirs ont répondu à la violence par la violence, nous dit l'historien Papendiaï.
L'émeute de 1919 de Chicago a cette caractéristique, cette originalité par rapport aux émeutes précédentes, c'est que pour la première fois, les Noirs répondent, tabassent et tuent aussi un certain nombre de jeunes Irlandais ou même de policiers. Sur les 38 ou 40 morts de l'émeute, 28 sont noirs, mais un peu plus d'une dizaine sont blancs. Ça, c'est quand même l'originalité de l'événement à Chicago. Cette fois-ci, les jeunes noirs décident de répondre. Ce que tout le monde note d'ailleurs à travers tous les États-Unis à partir d'août 1919. You're gonna keep on walking around your friend, boy, you're gonna get you. Been a song and a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home. Et si nous avons la chance de pouvoir évoquer les premières émeutes urbaines de l'histoire de l'Amérique, c'est grâce à la traduction en français du célèbre texte de Carl Sandburg, Les émeutes raciales de Chicago, une formidable initiative de la toute nouvelle maison d'édition Anamosa. Ce texte est un classique aux États-Unis, un indispensable pour comprendre les origines de la question raciale. Car sans jamais céder au voyeurisme, l'écrivain journaliste Carl Sandburg chronique l'été rouge des émeutes raciales de Chicago en s'intéressant à leur cause, sans jamais se complaire dans le spectaculaire des faits divers. Le journaliste décrit la réalité sociale de la naissance du ghetto dans la meilleure veine du reportage. Et pour nous éclairer sur l'œuvre du poète, écrivain et journaliste Carl Sandburg, l'auteur des articles sur les émeutes raciales de Chicago, je reçois Christophe Granger. Bonjour. Bonjour. À quoi avez-vous pensé en signant la longue préface de cette édition française que vous avez intitulée « L'Amérique et le démon de la race » Vous qui êtes l'auteur de l'essai « À quoi pensent les historiens ?»
Oui, à quoi j'ai pensé? Déjà, j'ai pensé au travail de Sandburg et à essayer de le rendre vivant aujourd'hui, de le rendre compréhensible et d'essayer de rendre à la fois les faits tels qu'ils s'étaient passés et ce que lui avait su en faire.
Voilà. Donc à l'actualité au fond de ce texte.
Oui, à l'actualité. Et puis le moment de la traduction avait commencé au moment des émeutes raciales actuelles aux États-Unis, Ferguson et autres. Donc c'était une manière de le rendre vivant aujourd'hui.
Pour discuter l'œuvre de Carl Sandburg, je reçois également Paul Shore.
Bonjour.
Bonjour Paul. Vous qui avez écrit Comté et classé une histoire des recensements américains, que vous inspire cette édition en français des chroniques de Carl Sandburg, entreprise quelques semaines avant l'explosion des violences entre blancs et noirs. On était en 1919 à Chicago.
Alors, tout d'abord, j'aurais à dire que c'est un très beau livre, une magnifique édition, un très beau travail d'éditeur. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à la fois, évidemment, ça porte sur un événement particulier, mais il y a beaucoup de résonance avec un présent récent, comme les émeutes de Ferguson, ou d'autres émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis, même si ce qu'on appelle émeute raciale, en fait, à l'époque, c'est-à-dire en 1919, c'est en général des émeutes où des Blancs attaquent des Noirs. Donc là, comme disait Papendiaï, la particularité, c'est qu'ils ont résisté, mais ce qu'on appelle aux États-Unis des émeutes raciales, en général, c'est ce qu'on appellerait en Europe des pogroms. Donc, il ne faut pas imaginer que ce sont les Noirs qui saccagent les quartiers. Donc, on voit dans ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. Et donc, à la fois, un texte très riche, très intéressant sur ce qu'était Chicago et ce qui était en train de se passer, les transformations en fait liées à la migration des Noirs du sud vers Chicago, mais aussi donc ces résonances avec un passé très contemporain.
Alors revenons au contexte, si vous le voulez bien, de cet été 1919, Christophe Granger, et de ce fait divers raciste qui va ensanglanter Chicago. Que s'est-il passé ?
En réalité, le point de départ, c'est un dimanche de la fin du mois de juillet où il fait très chaud et un jeune adolescent noir qui s'appelle le jeune Williams sur une plage qui est réservée aux Blancs. Il est pris à partie par une bande d'adolescents blancs qui l'invective, le caillasse, s'élance vers lui, et lui il était juché sur une traverse de chemin de fer, il tombe à l'eau, il se noie. Donc ça c'est le point de départ, je dirais factuel de ces événements, et la foule noire qui assiste au fait s'en prend à un des policiers présents en lui demandant d'arrêter les coupables, ce que le policier refuse de faire, ce qui ne manque pas de courroucer la foule contre lui, et le point de départ, le voilà. C'est-à-dire qu'ensuite, la rumeur se répand dans la partie noire de Chicago, dans le quartier de la Black Belt, où la foule commence à remuer, et dans la soirée, la foule noire qui s'est assemblée auprès de la plage prend à partie des blancs qui passent et tue les premiers blancs à ce moment-là dans la soirée. Et c'est ce qui met le feu aux poudres en réalité, puisque dans la soirée, les bandes de blancs, en particulier de gangs d'Irlandais, jeunes Irlandais, vont sillonner le quartier de la Black Belt et s'en prennent aux Noirs en représailles.
Alors l'intérêt des émeutes raciales telles qu'elles sont décrites par Carl Sandburg, c'est qu'il va vouloir expliquer les raisons de la colère des Noirs. Quels sont les thèmes auxquels ils s'intéressent ?
Ce qui est très intéressant avant de parler des thèmes, c'est ça, c'est qu'il ne cherche pas à faire dans le sensationnalisme, il ne prend pas les faits un par un, les coups de poignard ou le sang versé. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'essayer de faire comprendre. Et ce qu'il retient en premier, c'est la manière en fait, dont est organisée la ville de Chicago et dont elle a assigné une place aux Noirs dans cette ville, en particulier autour de la question du logement et d'autre part de la question de l'emploi, qui sont les deux grandes ficelles de ces émeutes, si on parle de choses un peu plus structurelles.
Alors justement, tout au long de cette édition de la Marche du Monde, nous allons revenir sur ces grands thèmes qui permettent d'expliquer cette explosion de la question raciale aux États-Unis à partir de ces différents éléments de contexte. C'est la leçon d'histoire de Pape Ndiaye, proposée par Théa Olivier. Pape Ndiaye est professeur d'histoire nord-américaine et co-auteur d'une histoire de Chicago aux éditions Fayard.
Au début du XXe siècle, il y a très peu d'Afro-Américains à Chicago, c'est moins d'1% de la population. Et la grande migration vers Chicago et vers les grandes villes industrielles du Nord commence à partir de la Première Guerre mondiale. C'est donc à partir des années 1916-1917 que des masses de Noirs du sud des États-Unis s'installent à Chicago 2 ans avant les émeutes. Ils viennent du delta du Mississippi. Pour beaucoup, donc de l'État du Mississippi, mais aussi de Louisiane, d'Alabama, de ces régions qui sont également touchées par la crise économique, par la crise agricole du coton, et qui sont également soumises à une ségrégation extrêmement violente à cette époque. Donc les gens partent pour fuir aussi la violence raciale et pour fuir aussi la misère.
Quand les migrants noirs arrivent à Chicago, c'est parce qu'ils ont quitté le sud des États-Unis vers la grande ville du Nord dans l'espoir de trouver leur place dans un monde nouveau.
Chicago est une grande ville industrielle, une ville de grande industrie avec les fameux abattoirs qui ouvrent dans les années 1860, mais aussi avec de gigantesques aciéries. La ville devient le premier producteur d'acier quelques années plus tard, devant Pittsburgh, mais aussi les machines agricoles McCormick et toutes sortes d'activités qui ont besoin de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre pas forcément formée, mais abondante et peu chère. Et donc ce sont ces emplois que la population noire va tenir, souvent d'ailleurs les emplois les moins payés, les plus difficiles dans les abattoirs, ce sont les emplois qui sont les plus durs, mais qui les mettent en compétition avec les migrants européens qui sont venus quelques années plus tôt. Les syndicats n'accueillent pas bien les Noirs qui arrivent du Sud parce qu'ils ont la réputation d'accepter des salaires très bas. Ils sont aussi employés pour briser les grèves. Et à cette époque, en 1919, le monde syndical blanc n'est pas du tout favorable à l'arrivée de ces ouvriers noirs. I can't give you anything.
only thing I'm leaning on. Baby, dream my wild, scheme my wild, baby. You should do that. By the love, I love, I love all. Apple, and I grab all the men that you have probably do. Gee, I'd like to see you looking swell for baby.
Pourquoi la ville de Chicago n'est-elle pas cette terre promise, tant espérée par les Noirs qui fuient le sud esclavagiste au début du XXe siècle, Christophe Granger?
En réalité, il y a plusieurs manières de répondre. La première, c'est qu'on est à la sortie de la guerre, c'est-à-dire qu'une partie de ce qui s'est organisé pendant la guerre est prodigieusement transformée à la fois par le retour des soldats blancs, qui reprennent une partie des emplois, et à la fois par le retour des soldats noirs, qui réclament, consciemment ou moins consciemment, d'avoir une place nouvelle parce qu'ils ont combattu à l'égal des blancs, et ainsi de suite. L'autre chose, c'est évidemment la manière dont s'est organisée l'implantation de ces Noirs qui arrivent des États du Sud et qui se retrouvent parqués dans une partie de la ville, population pour laquelle on ne construit pas de nouveaux logements et qui ont à s'installer là où il y a déjà une population blanche qui, elle, part et petit à petit, on obtient un quartier noir, entièrement noir.
Et je précise à nos auditeurs que vous n'arrêtez pas de faire des dessins sur le plateau de ce studio et pour cause, parce que c'est une question de territoire tout cela. C'est d'ailleurs ce que décrit Carl Sandburg dans ses articles consacrés au quartier noir, à la Black Belt notamment. Alors, est-ce que c'est la naissance du ghetto?
Oui, les émeutes en réalité sont la première manifestation de cette construction du ghetto. Oui, parce que d'abord la population est en train de se constituer comme population noire dans un quartier noir qui a ses écoles, ses églises et ainsi de suite, et que d'autre part l'essentiel des heurts pendant ces émeutes vont se passer dans ce quartier-là. Donc on est effectivement dans les débuts du ghetto de Chicago. Oui.
Paul Shore, que disent les chiffres des statistiques démographiques sur cette concentration des Noirs dans un même quartier?
Justement, c'est là qu'effectivement on peut parler de ghetto, c'est-à-dire un quartier où une population qui est minoritaire à l'échelle nationale devient majoritaire, voire très majoritaire dans ces quartiers. Donc on a arrivé de plusieurs dizaines de milliers de personnes en un temps très court. Et comme le disait Christophe Granger, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de construction de logements pour les accueillir. Et donc, ils arrivent dans des quartiers où il y a déjà des habitants. Et ce qu'on observe quand on regarde la carte, en fait, des affrontements, c'est que cette dimension spatiale est très importante. C'est-à-dire qu'une partie des affrontements se passe dans les rues, les bords du quartier qui est en train de devenir un quartier noir, c'est-à-dire les quartiers qui sont disputés, c'est-à-dire là où il y a une compétition entre les blancs et les noirs pour le logement. Et c'est vraiment une guerre de territoire aussi. Et cette dimension du logement, elle est très importante et elle est très présente dans le livre de Sandburg. Je pense que c'est vraiment très important que ça soit évoqué dans ce texte qui parle des émeutes de 1919, parce que cette question de l'accès au logement, c'est pas seulement une question de droit, c'est une question de concurrence pour l'accès au logement. Et c'est ce qui explique aussi en partie les émeutes de Ferguson. Et cette question, elle est différente aujourd'hui, mais elle est toujours là.
Et Carl Sandburg écrit d'ailleurs, sous la pression de la crise démographique la plus grave qu'aucune race et aucune nationalité ait connue au sein d'un quartier de Chicago, la population du secteur déborde, ou plutôt est irrésistiblement expulsée vers d'autres quartiers. Les relations sont très dures entre les migrants, notamment entre les Irlandais et les Noirs, les précisions de l'historien Papendiaï.
Ce sont les jeunes Irlandais qui sont en première ligne contre les Noirs en 1919. Ça, c'est en raison d'abord de la migration irlandaise vers Chicago, qui est très très importante à partir de la fin des années 1840, lorsque des centaines de milliers d'Irlandais quittent une île qui est en proie à la fameuse famine des pommes de terre. Et ils sont mal accueillis, ils sont considérés comme des catholiques d'abord, mais aussi des alcooliques, enfin des gens bons à rien. Dès lors, les Irlandais sont dans une situation qui les rapproche en quelque sorte du monde noir. On a pu parler des Irlandais comme étant les Noirs de l'Europe. Et donc, ils veulent se distinguer d'autant plus du monde noir que eux peuvent souffrir aussi de stigmates ethno-raciaux qu'ils connaissent depuis un demi-siècle. Donc, les Irlandais sont particulièrement agressifs. Richard Wright, l'écrivain, raconte cela dans les années 30. Il se trompe de trottoir et puis il est rossé par des jeunes Irlandais qui l'aperçoivent marcher du mauvais côté de la rue. Donc, il y a quand même une ville, Chicago, qui est structurée par des règles implicites de ségrégation que les ouvriers irlandais, lituaniens et les autres appliquent avec beaucoup de force en mobilisant les fameux clubs athlétiques, c'est-à-dire ces clubs sportifs de jeunes gens qui ont souvent des gourdins et des battes de baseball et qui font régner en quelque sorte la loi raciale dans la ville.
Suite aux émeutes de l'été 1919, la situation change-t-elle ? Les autorités vont-elles s'attaquer à cette violence raciale ?
L'émeute de 1919 n'a pas changé la situation des Noirs de Chicago. Un rapport officiel publié en 1922 montre la situation. Il n'y a pas eu de décision politique particulière. Le grand quartier noir de Chicago, le South Side, a continué de grossir dans les années 20, un peu moins pendant la Grande Dépression, puisque la migration est bloquée par un taux de chômage très important dans la ville de Chicago. Et puis la migration repart pendant la Seconde Guerre mondiale et fait que la population noire a atteint pratiquement 30% de la population de Chicago dans les années 1950. On en est toujours là d'ailleurs à peu près, à peine 30%. Donc c'est une situation démographique qui n'a pas été accompagnée par un progrès politique évident. Il faut attendre le premier maire noir de Chicago, Harold Washington, qui est élu d'ailleurs au début des années 1980, qui a inspiré Obama. Bref, les émeutes de 1919 ne se sont pas caractérisées ou n'ont pas entraîné de modifications particulières. On peut même dire que l'après-Première Guerre mondiale est un moment particulièrement dur pour la population noire de tous les États-Unis, et particulièrement Chicago.
Chicago, la troisième ville des États-Unis en ce qui concerne le nombre d'habitants de couleur en 1919, c'est le double des chiffres de 1914, c'est donc 50% de plus en 5 ans, Paul Shore. Est-ce que la question raciale, c'est d'abord une question démographique ?
Non, en fait, c'est pas en soi une question démographique, mais ce qui est évident, c'est que ces migrations internes concentre les problèmes dans certains endroits, et en l'occurrence donc dans ce quartier sud de Chicago. Mais je voudrais aussi ajouter un complément à ce que disait Pavdia, et c'est que en même temps, même si c'est vrai que les Noirs sont d'une certaine manière politiquement marginalisés à Chicago, une des raisons qui les attire aussi à Chicago, c'est qu'à Chicago, ils peuvent voter, ce qui n'est plus le cas dans le
très
sud.
Très important, hein, Christophe Granger. Ils viennent chercher du travail, mais aussi ce droit de vote.
Oui, cette forme de reconnaissance, oui, complètement.
Qui n'existe pas dans le sud.
Qui n'existe pas dans le sud et qui fait que c'est une des circulations. Mais en revanche, mais je suis d'accord avec ce que dit Paul Shore, il ne faut pas simplement faire une question de chiffres, ni une question raciale. C'est-à-dire le problème n'est pas un black problem ou autre. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Ça crée des concurrences qui n'existaient pas auparavant, et pour l'emploi, et pour le logement, et pour tout le reste.
Oui, parce qu'en fait, il faut aussi se souvenir que Chicago est... comme le dit un article célèbre de Maurice Halbwaque, c'est Chicago, ville ethnique. Chicago est une ville qui se caractérise par un nombre très important de migrants, que ce soit des gens qui viennent d'autres parties des États-Unis ou des pays d'Europe. Et donc il y a très peu de gens à Chicago qui sont là depuis deux générations. Mais la différence en fait entre ces migrants, que ce soit les Irlandais, les Allemands, les Lituaniens ou les autres, ou les Polonais qui sont aussi très nombreux, c'est que eux ont une certaine liberté d'installation dans la ville. Ils peuvent aller dans différents quartiers, même s'ils ne sont pas toujours bien accueillis. Et le problème, en fait, des Noirs, c'est que s'ils se concentrent dans ce qu'on appelle la Black Belt, c'est parce qu'on les empêche d'habiter dans tout le reste de la ville. Et du coup, ça crée des tensions très fortes sur le marché du logement, puisque, en fait, ils ne peuvent pas tous habiter dans un quartier où, au départ, la population noire était plus petite. Ce qui fait qu'il y a des enjeux qui, en vérité, sont des enjeux économiques et sociaux qui explique, et je pense que le livre le montre vraiment de façon très, très claire, que en fait, ça se cristallise sur cette question raciale, mais c'est pas juste une question de préjugés.
Les émeutes raciales de Chicago en 1919, c'est à suivre dans La Marche du Monde.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde consacrée aux émeutes raciales de Chicago, c'était en juillet 1919 et c'est un livre essentiel, enfin traduit en français, à l'initiative des éditions Anna Moza. Grâce à la plume de Carl Sandburg, trois fois prix Pulitzer pour ses poèmes et pour sa biographie d'Abraham Lincoln, le président qui a proclamé l'abolition de l'esclavage en 1863, héros et modèle de Barack Obama. Aretha Franklin en janvier 2009, lors de l'investiture de Barack Obama. La reine de la soul chante « My country is of thee » devant un président ému aux larmes. Quel est le sens de cette chanson dans l'histoire des Noirs américains, Paul Shore?
Parce que ce qui est très important en fait là, c'est que Barack Obama choisit pour son inauguration de faire chanter donc une des plus célèbres chanteuses noires américaines, mais aussi qui incarne justement cette histoire dont on parlait dans la première partie, puisqu'elle est elle-même de Détroit. Elle est une enfant de cette migration des Noirs du Sud. Bon, Détroit n'est pas exactement Chicago, mais c'est dans la même période. Et c'est aussi une façon pour Barack Obama, qui a commencé sa carrière d'activiste à Chicago, dans le quartier noir de Chicago, de justement resserrer ce lien qui fait entre lui, entre sa biographie, sa personne, et cette histoire longue des Noirs américains, puisque comme on sait, lui n'est pas issu de cette histoire, c'est pas l'histoire de sa famille, de ses parents, mais par contre, justement, il s'inscrit dedans pleinement, et d'autant plus que ces quartiers dont on parlait dans la première partie, ce quartier sud de Chicago, c'est là que Barack Obama vivait avant d'être président.
C'est un rêve d'égalité incarné par Obama et rêvé par Luther King, qui est né dans les tranchées, en Europe, pendant la Première Guerre mondiale. Et il faut lire le texte de Carl Sandburg pour le comprendre, Christophe Granger.
Oui, c'est un moment particulier, 1919, les émeutes, parce que précisément, c'est la fin de la guerre et que les soldats noirs américains ont combattu en France, dans les tranchées, et qu'ils reviennent. C'est-à-dire le retour des soldats noirs s'accompagne d'une transformation des revendications noires et une transformation du rapport à cette égalité. C'est-à-dire que précisément, le sang versé en France vaut reconnaissance dans Chicago, mais également à Détroit et ailleurs. Et c'est une des choses que Sandburg note. C'est-à-dire à la fois une reviviscence de cet activisme noir. On monte des journaux, on monte des opérations de boycott, de magasins qui refusent d'employer des noirs. Et c'est aussi un moment où une partie de la population blanche va se braquer sur la question des Noirs et réclamer le retour des Noirs vers le Sud et monter ce genre de campagne. Donc la question de la guerre est importante pour comprendre les émeutes de 1919.
Oui. Et Carl Sandburg, dans son livre, ce petit livre traduit en français, raconte son enquête. Il demande aux Noirs de Chicago quel avenir pour les gens de couleur. Et la réponse qui revient le plus souvent, écrit-il, semble faire consensus. Nous avons fait l'ultime sacrifice. Ils n'ont pas eu besoin de nous contraindre. Nos états de service, tout comme Old Glory, le drapeau que nous aimons car il symbolise notre liberté, n'ont pas une seule tâche. Nous sortons des hostilités blancs comme neige. À présent, nous souhaitons voir notre nation honorer la Constitution et la Déclaration d'Indépendance. C'est fort pour des jeunes gens. Ils sont très jeunes. Quand on fait la guerre, on est très jeune. Donc ils ont pensé dans ces tranchées.
Oui, complètement. Et ce qu'ils ont pensé, c'est ça. C'est le décalage entre ce qu'ils ont pu vivre là-bas, ce à quoi ils aspirent et la réalité dans laquelle ils sont plongés à nouveau, qui est celle du Chicago qu'on décrivait, à savoir cette ségrégation spatiale, cette ségrégation sociale autour de l'emploi, du logement, qui, en tout cas pour eux, leur devient intolérable, leur devient incompréhensible et donc intolérable. Et une partie du fait que, on en a parlé aussi, mais du fait que les Noirs, là, se révoltent, c'est-à-dire là, ils osent taper, tabasser et autres en représailles, vient probablement de ça, du fait qu'il y a de l'intolérable, là où ils n'étaient pas avant-guerre. Oui.
Aurait-il appris à se défendre ? Et attirer, ce qui fait peur aux Blancs également.
Oui, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que est-ce que c'est la guerre qui apprend à se battre ? Là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, une partie des représailles des Noirs se passe à coups de fusil et avec des armes à feu. Donc, cette forme de brutalisation dont on parle pour l'Europe, on peut en retrouver des racines autour de ça. Mais je pense que le principal, c'est quand même ça, la situation dans laquelle ils se retrouvent plongés, qui a perdu sa légitimité. C'est-à-dire, là, ça n'est plus légitime d'accepter cette ségrégation, d'accepter. Elle tient plus, elle repose plus sur des motifs légitimes à leurs yeux en tout cas.
Paul Shore, vous avez montré dans votre livre « Compter et classer, histoire des recensements américains » la façon dont les Noirs sont peu à peu intégrés à la réalisation des statistiques ethnico-raciales et apparaît ainsi le nom de W.A.B. Du Bois, le grand militant pour la cause des Noirs en tant que sociologue ayant participé à ses études sur le recensement des catégories raciales. C'est très étonnant. Qu'a-t-il fait de cette expérience ?
Non, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que Dubois, qui est vraiment une personnalité absolument fondamentale pour comprendre en fait comment les Noirs américains ont pu mobiliser la connaissance et le savoir pour montrer que en fait, il valait mieux que ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que Dubois a fait, à la fois par des études monographiques et son travail sur les statistiques, c'était montrer que les Noirs n'étaient pas tous pauvres, que les Noirs n'étaient pas tous illettrés. Il mobilise les outils des sciences sociales pour montrer que, en fait, il est possible pour eux d'occuper toutes les places dans la société. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas les Noirs qui en sont incapables, c'est la société qui les en empêche. Et quand Dubois travaille sur les statistiques du recensement, ce qu'il essaye de montrer, c'est ça. Il essaye de montrer que, en fait, quand on fait une vraie enquête solide sur la population noire des États-Unis, on voit toutes ses potentialités, mais on voit aussi tous les blocages. Et du coup, c'est intéressant si on fait le lien avec Sandberg, parce que lui, il est dans des observations qui sont tout en finesse et qui n'ont pas du tout le côté qui peut être austère ou un peu rébarbatif des études statistiques. Et ces aspects, justement, que des sociologues, des militants comme Dubois ont mis en forme de façon plus systématique, plus scientifique, sont en vérité très présents dans le texte de Sandberg. C'est-à-dire que les causes économiques et sociales et les causes démographiques, elles sont présentes dans le texte, mais pas d'une façon qui soit lourde ou démonstrative, d'une façon très fluide, mais qui touche à des choses très, très profondes.
La marche du monde revient sur les émeutes raciales de Chicago. C'était en juillet 1919. Un jeune noir se noie au large d'une plage réservée aux blancs. Il est terrorisé parce que ces jeunes blancs lui ont jeté des pierres et vont suivre des émeutes, gangs contre gangs, 23 morts parmi les noirs, 15 parmi les blancs, et la police n'a pas levé le petit doigt. Pour quelle raison, Christophe Granger, et surtout, quelle est l'explication de Carl Sandberg ?
Autour de la question de la police, c'est une question compliquée parce qu'il y a aussi des policiers noirs et faire une généralité est toujours périlleux.
Non, mais dans ce cas précis.
Dans ce cas précis, en réalité, ça s'inscrit dans des traditions policières, dans des routines policières de maintien de l'ordre qui sont des habitudes de pas se mêler lorsqu'il y a des tabassages de noirs ou autres. Et c'est ce qui se produit là, l'attaque des tramways et autres. Les policiers soit interviennent trop tard, soit passent leur chemin, ce qui est très bien décrit dans le rapport qui suivra les émeutes. Et c'est une des choses qui fait aussi que la population noire intervient et prend les armes, cette défiance à l'égard de la police. Le point de départ sur ce policier qui refuse d'intervenir et qui finit par arrêter des noirs qui s'en prennent à lui pour dénoncer le groupe d'adolescents blancs est exemplaire et dit une chose assez simple qui est ne comptez pas sur la police. Et c'est une des choses qui mobilise beaucoup la population noire. Pas simplement, c'est aussi l'idée qu'ils sont attaqués et qu'il faut se défendre. Mais de la même manière que la question des rumeurs aussi extrêmement importantes, ou la question du rôle de la presse, la question de la police et des routines policières rentrent dans ce système-là d'engrenage des émeutes.
Nous allons maintenant retrouver la leçon d'histoire de Pape Ndiaye proposée par Théa Olivier. L'auteur de l'histoire de Chicago a pu consulter les archives du Chicago Defender. Le journal noir et militant a participé à sa façon aux émeutes de 1919.
Le Chicago Defender est ce journal afro-américain qui est créé au début du XXe siècle mais qui prend son essor dans les années 1910 et qui devient la principale publication noire des États-Unis. Le Chicago Defender est lu dans tout le pays, bien au-delà de Chicago. Il est transporté en particulier par les trains, puisque Chicago est la capitale du rail, et donc les exemplaires du Defender se diffusent dans le sud des États-Unis. Et c'est dans le Defender qu'on trouve d'ailleurs des articles qui appellent la population noire à s'installer à Chicago. C'est, le Defender se fait un grand militant de la grande migration vers Chicago, en même temps qu'un grand militant contre les lynchages qui se multiplient à cette époque dans le sud des États-Unis. C'est une publication qui a eu beaucoup d'importance tout au long du XXe siècle pour beaucoup d'Américains. Et c'est un journal qui a été un journal en quelque sorte militant pour une représentation politique des Noirs dans les échelons municipaux de Chicago. En tête en particulier les grandes unes du Chicago Defender dans les années 50, en 55, lorsque le jeune Emmett Till, qui était un jeune adolescent de Chicago, a été martyrisé et tué dans des circonstances atroces dans le sud des États-Unis, soi-disant pour avoir fait un clin d'œil à une femme blanche. Le Chicago Defender a publié la photo du visage défiguré d'Emmett Till au moment de ses obsèques, ce qui a été un moment très important pour les débuts du mouvement pour les droits civiques.
À la différence de Carl Sandburg, le Chicago Defender n'hésite pas à impressionner son lectorat en publiant des photos chocs. Le journal défend la cause des Noirs.
Le Chicago Defender a pris évidemment la défense du monde noir, dont il était en quelque sorte le journal, le représentant, pour dénoncer d'abord les menées des jeunes gangs irlandais dans le quartier noir, dans le South Side, pendant l'été 1919, et puis aussi pour s'inquiéter d'une mairie et de forces municipales qui, au fond, ont laissé un peu faire. Les policiers ne se sont pas vraiment mobilisés, c'est le moins qu'on puisse dire, pour défendre la population noire qui était attaquée. Et donc le Chicago Defender était en quelque sorte très militant pour réclamer une commission d'enquête, pour réclamer de meilleures conditions de vie aussi, dans un quartier surpeuplé, avec des équipements publics tout à fait inférieurs à ce qu'on trouvait dans le reste de la ville. Mais c'est un journal populiste, c'est un journal qui prend un ton un peu véhément, qui s'adresse à la population noire pauvre, avec des manchettes très spectaculaires, avec des photos chocs, etc. Ce n'est pas un journal intellectuel, mais c'est un journal militant.
Si le Chicago Defender défend la cause des Noirs, quel est le journal emblématique de l'Amérique raciste ?
Ah, il y a le grand journal de Chicago, le Chicago Tribune, fondé et dirigé par Hearst, le fameux mania de la presse. C'est la Yellow Press, comme on dit, donc une presse très populiste, dirigée par cette figure qui a inspiré Orson Welles dans son Citizen Kane. Et le Chicago Tribune, lui, est sur une ligne assez raciste, de dénonciation de la population noire, etc. C'est un journal conservateur, qu'il est resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et qui se fait donc en quelque sorte le porte-parole de la population blanche face aux Defender et à la population noire.
Mais le Chicago Defender ne baisse pas la garde. Le journal est à l'origine de la plus grande fête des Noirs de Chicago, inventée juste après les émeutes de 1919.
About the Bud Billiken Parade, the country's oldest and largest African-American parade.
For Chicago kids, it's that time again.
Yeah!
Le fameux Billy Den aux États-Unis, cette grande fête afro-américaine qui a lieu à Chicago chaque année. C'est une fête qui est inventée en quelque sorte au début du XXe siècle par un journaliste qui s'occupait de la page jeunesse du Chicago Defender, qui s'adressait à la jeunesse noire américaine et qui a eu l'idée d'organiser une fête qui, au départ, était limitée au quartier noir et puis qui ensuite a pris une importance évidente. C'était l'occasion pour le journal de se promouvoir, donc il y a une dimension publicitaire. Donc ça se développe dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Mais la population noire de Chicago s'est emparée de cette fête et elle est devenue un grand rendez-vous annuel. La télévision est là, enfin toute la ville descend dans la rue pour écouter aussi le jazz et le blues, bien sûr.
In the shame of seeing him before we went, he had his whole family there. He was looking for home. He was looking for home.
Oh.
écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Grand événement annuel avec une grande parade à travers la ville, avec des orchestres, avec le maire qui y participe, qui est la fête des Noirs de Chicago et qui peut avoir une dimension politique aussi puisqu'on peut revendiquer des droits. C'était le cas particulièrement dans les années 60 quand Martin Luther King s'était installé à Chicago. Le tout est célébré par le Chicago Defender. Donc c'est un événement qui compte dans la vie de Chicago, bien au-delà d'ailleurs du monde noir. Tout le monde participe à cette fête, comme tout le monde participe au Columbus Day pour les Italiens-Américains ou bien à la Saint Patrick pour les Irlandais.
La première Bud de Billiken Parade a eu lieu en 1929 à Chicago. Elle est devenue la plus importante et la plus ancienne parade pour la fierté afro-américaine. Quel lien pouvez-vous faire avec ces premières émeutes de juillet 1919, Paul Shore ?
Justement, ce qui me paraît très important en lien avec ce livre, c'est l'idée que dans une ville comme Chicago, il n'y a pas de ségrégation officielle, légale comme dans le Sud, mais il y a une sorte de carte invisible que tout le monde connaît, et en fait c'est à ça que servent ces gangs blancs, les clubs athlétiques. C'est-à-dire qu'en fait, eux, d'une certaine manière, ils patrouillent la frontière, c'est-à-dire qu'ils empêchent les Noirs de sortir des quartiers auxquels ils sont assignés. Et cet adolescent dont on parlait, dont la mort est à l'origine de ces émeutes, en fait il a apparemment dérivé, il a transgressé une ligne, mais c'est une ligne invisible qui n'est pas matérialisée, mais que tout le monde est censé connaître. Et donc ces émeutes sont bien aussi une question de géographie, c'est une question spatiale, mais la particularité de ces villes du nord des États-Unis, une fois qu'il y a cette migration des Noirs du Sud, c'est qu'ils vont mettre en place des formes de ségrégation, en particulier très forte ségrégation résidentielle, qui ne se voit pas pour les visiteurs comme on peut le voir dans le Sud, avec des panneaux réservés aux blancs, réservés aux noirs, mais qui, pour les habitants locaux, en fait, il y a tout un tas de barrières invisibles et il y a des risques quand on les franchit. Et en fait, l'émeute tourne aussi autour de ça, de cette question de transgression. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire des États-Unis, notamment dans l'histoire des lynchages. En fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup des victimes de lynchages, qui sont en très grande majorité des hommes noirs, sont des gens à qui, d'une manière ou d'une autre, on reproche de ne pas être resté à leur place, d'avoir transgressé une frontière invisible. Et on sait, par exemple, dans le Sud, qu'on a des Noirs qui ont été victimes de lynchage parce que la ségrégation prend des formes différentes selon les endroits. Et par exemple, il y a des villes du Sud où les fontaines étaient ségrégées, d'autres où elles n'étaient pas. Et donc, certains Noirs du Sud, en se comportant dans une ville qui n'est pas la leur, en respectant ce qu'ils pensent être les règles de la ségrégation dans leur ville, qui est aussi dans le Sud, se trompent, en fait, bravent des interdictions qu'ils n'ont pas identifiées, et parfois ils le payent de leur vie. Et ce qu'on voit aussi dans ces émeutes, c'est qu'il y a une fonction politique et sociale de ces violences, qui est vraiment de maintenir un ordre social et un ordre racial. Et il y a un lien entre, justement, cet ordre social qui est profondément injuste et cette violence. Et je pense que ce que permet ce livre et le texte de Carol Sandburg est, de mon point de vue, très important pour ça. Il permet de façon très, très impressionnante, parce que à côté des journaux qui mettent beaucoup l'accent sur le côté spectaculaire, sensationnel des violences, en fait, il parle peu des violences, mais implicitement, il rattache les violences à l'économique et aux politiques. Et là, il y a une leçon pour aujourd'hui, et je pense même au-delà du cas des États-Unis, qu'on pourrait réfléchir aussi pour la France, dans les cas où il y a eu, par exemple, les événements de 2005, se dire, mais en fait, est-ce que les émeutes, c'est uniquement de la délinquance, ou est-ce que les émeutes ne sont pas le symptôme de fractures profondes de la société?
Et cette analyse fait écho à ce que le premier éditeur de Carl Sandburg écrit le 26 août 1919, et vous avez souhaité publier son texte, Christophe Granger. La fierté raciale viendra au nègre quand une peau sombre ne sera plus associée à la pauvreté, à l'ignorance, à la misère, à la terreur et aux insultes. Quand cette fierté se fera jour, chaque blanc en Amérique s'en réjouira. Il pourra alors, ce qu'il ne peut faire aujourd'hui, savourer le plus grand avantage qu'offre un monde de vie civilisée. La compagnie d'hommes différents.
Oui, c'est intéressant. C'est la préface initiale de Walter Lippmann. Mais je pense que la chose intéressante, parce qu'ensuite il y a eu des interprétations du texte de Sandburg, mais ce qui est très intéressant, ce que disait Paul Short à l'instant, c'est ce décalage entre. Il faut se remettre ça dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il écrit au moment des émeutes. Ça donne une profondeur, il me semble, à la manière dont il raconte les choses. Et c'est effectivement ça. Il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de choses extrêmement posées. Le fait de dire, c'est pas des blancs et des noirs comme le font l'essentiel des journaux de l'époque, c'est la faute des Noirs, c'est la faute des Blancs. Lui, il va chercher autre chose et il va chercher une parole dans laquelle il fait tenir, si on regarde le texte, on voit qu'il donne de plus en plus de place aux gens qu'il rencontre, c'est-à-dire il y a de plus en plus de place à la parole noire des gens qu'il va rencontrer, à la parole blanche, et on le voit en train d'essayer de constituer quelque chose sans le dire, sans faire des analyses, et il constitue une parole comme ça, qu'on pourrait trouver naïve du premier abord, mais qui est extrêmement importante et extrêmement neuve à l'époque et extrêmement efficace, je trouve, autour de... C'est pas de l'humanisme nié, c'est au-delà de ça. Il essaye de montrer la question n'est pas une question raciale, c'est une question sociale, il faut la prendre comme telle, donc il faut que l'État s'en charge, il faut que les Blancs s'en préoccupent, il faut que les Noirs s'en préoccupent. Et je trouvais que autour de ça, le texte a gardé une actualité considérable.
Les émeutes raciales de Chicago, juillet 1919... Carl Sandburg, la traduction française aux éditions Anna Moza et préfacée par vous, Christophe Granger. Un grand merci pour ce livre et pour le courage de cette nouvelle maison d'édition. À vous signaler également donc le livre de Paul Shore, Compté et classé, Histoire des recensements américains aux éditions EHESS, ainsi que l'histoire de Chicago d'Andrew Diamond et Pap Ndiaye. C'est aux éditions Fayard. Chicago, juillet 1919, les premières émeutes raciales. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Cécile Pompeani, avec la complicité de Théa Olivier. N'hésitez pas à nous écrire, marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur la page Facebook de l'émission. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.